Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la guerre entre Israël et le Hamas, des contours actuels qu'elle prend et de tous les jalons qui y ont mené depuis plus de 70 ans, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau un des invités les plus habituels et distingués du Collimateur, je n'ose dire un pilier de défense, Michel Goya. Colonel en retraite de l'armée de terre, historien, consultant LCI aussi et auteur de L'Embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas, coédité chez Perrin et Robert Laffont, et qui sort dans quelques jours. Donc bonjour Michel, bienvenue à nouveau dans le Collimateur pour la première fois, je crois, dans ces nouveaux studios.
Tout à fait, oui.
Un peu moins proche de l'école militaire que pour vos 250 premiers passages dans le podcast. Alors je vais préciser tout de suite les contours et le propos de cette émission sur un sujet qui est évidemment très sensible, qui agite beaucoup de choses dans la société, dans l'espace médiatique français et sur lequel beaucoup de monde a un avis extrêmement tranché, qui va évidemment pas s'agir de se prononcer sur la légitimité ou sur la justesse de telle cause, de telle ou telle partie du conflit, ou tel mode d'action. Pas non plus sur la dimension humanitaire de l'opération israélienne à Gaza, ça fait bien évidemment partie intégrante de l'équation, puisque c'est une donnée politique qui pèse comme toujours sur la conduite de la guerre. Mais d'une part, je pense qu'on ne manque pas de ressources ou d'émissions pour traiter ce volet-là en ce moment. Puis surtout, ce n'est pas le propos central de ce livre, qui livre une analyse militaire de ce qui se passe et de comment on en est arrivé là. Livre qui est par ailleurs relativement court, qui est 200 pages, mais qui est extrêmement riche et extrêmement dense, donc on a déjà largement de quoi faire, et c'est vraiment sur cette dimension militaire qu'on va insister aujourd'hui. J'ajoute aussi à ceux qui pourraient s'étonner que vous publiez déjà une histoire de ce conflit quelques mois après ce déclenchement, je vais signaler que d'une part vous êtes un peu coutumier du fait, puisque la dernière fois que vous étiez à ce micro c'était pour un ouvrage qui faisait un peu la même chose, mais sur la guerre d'Ukraine, L'ours et le renard, écrit il y a quelques mois avec Jean Lopez. Donc aussi une sorte d'histoire immédiate d'un conflit en cours, mais surtout que c'est pas comme si vous aviez découvert le sujet récemment, vous commencez le livre par là, ou comme si vous aviez commencé à le travailler le 7 octobre, vous vous y intéressez depuis longtemps, depuis 2004 écrivez-vous, vous êtes notamment venu analyser différentes phases de ce conflit depuis des années à ce micro, et puis vous avez déjà publié dessus, notamment sur la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, un ouvrage dont je peux rappeler le titre, Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée avec Marc-Antoine Briand en 2013 aux éditions du Rocher. Marc-Antoine Briand qu'on réentendra prochainement à ce micro pour un sujet totalement différent, mais je peux déjà le signaler. Alors, c'est un livre qui, je l'ai dit, retrace l'évolution vraiment des capacités militaires israéliennes rapportées à leurs adversaires, notamment palestiniens, à l'échelle de plus d'un demi-siècle, en se posant la question de comment on en est arrivé à ce rapport de force actuel et cette effraction en quelque sorte dans la routine des relations entre Israël et le Hamas en tout cas, qu'est le 7 octobre. Et on va revenir sur un certain nombre de ces étapes qui disent quelque chose des trajectoires respectives, mais j'aurais aimé commencer un peu par la fin et poser tout de suite le tableau actuel, ce qui vous est un peu habituel puisque vous êtes consultant LCI comme je l'ai dit, mais donc vous demandez à l'heure actuelle, on enregistre cette émission le 8 mars, voilà, à quoi ça ressemble en ce moment l'intervention d'Israël à Gaza et les combats qui s'y déroulent.
Alors bonjour Alexandre, oui, si on fait un point de situation militaire, on est une situation un peu étrange d'ailleurs, qui me surprend, où l'offensive terrestre commençait le 27 octobre et dont l'objectif était en réalité de détruire le Hamas dans toute la bande de Gaza, en attendant de trouver une solution alternative à sa gouvernance, mais en tout cas d'occuper l'ensemble du territoire pour casser l'armée du Hamas, casser l'État Hamas ou le proto-État Hamas, éliminer ses dirigeants et libérer les otages. Ben, cette opération, elle est plutôt à l'arrêt, en fait. C'est assez étonnant. Quand elle a commencé le 27 octobre, j'avais dit, bon, voilà, en gros, on demande aux Israéliens, l'armée israélienne, de faire quatre fois au moins 4 fois ce qu'elle avait fait en 2014. On avait demandé à l'époque, c'était l'opération bordure protectrice, on avait demandé aux Israéliens de tout détruire du Hamas sur 3 km de frontière. Bon, ce qu'ils avaient fait, ça avait pris 20 jours et ils avaient eu 66 soldats tués. Et donc, bon, j'avais estimé à l'époque qu'il faudrait au moins 4 fois plus. En gros, la mission, c'était 4 fois plus, quoi. 4 à 5 fois plus. Donc, c'était une mission à 3 à 4 mois et à 250 morts. Et en réalité, on est maintenant au mois de mars et les Israéliens occupent 60% d'à peu près de la bande de Gaza. Et surtout, ce qui m'étonne vraiment, c'est que les opérations se ralentissent, quoi. Ils ont eu une centaine de morts au combat dans le mois de décembre, une cinquantaine au mois de janvier et 17 au mois de février. C'est-à-dire que là, on voit, par ces statistiques un peu morbides, le niveau d'intensité et d'engagement qui diminue.
C'est pas qu'ils deviennent meilleurs, c'est qu'ils avancent moins vite, quoi.
Exactement, c'est qu'ils prennent moins de risques. Et en même temps, ils revendiquent d'avoir tué 13 000 combattants du Hamas et alliés, ce qui, si on ajoute les blessés graves, ce qu'on appelle les pertes définitives, les prisonniers, etc., devrait logiquement aboutir à la destruction, en réalité, de l'armée du Hamas, qu'on estimait à peu près 30 000 combattants avant l'opération. Et donc, a priori, il aurait pu y avoir beaucoup de résistance en face, et pourtant, ça s'arrête. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est pour privilégier les négociations pour libérer les 130 et quelques derniers otages? Est-ce que c'est une forme d'épuisement, d'usure de l'engagement? C'est possible. Est-ce qu'ils considèrent qu'ils ont fait finalement le gros du boulot, que c'est suffisant? Ils ont effectivement détruit l'armée du Hamas et que le Hamas, il n'y a plus de tirs de roquettes non plus, par exemple, sur les territoires israéliens. Donc ça suffit. Ils ont atteint l'objectif suffisant. Mais on ne sait pas. On est dans une période de... un peu étrange, encore une fois, un peu bizarre, c'est intermédiaire où tout les opérations semblent suspendre leur vol de certaines façons.
On en reparlera, mais c'est un peu problématique dans le cas particulier d'Israël, puisque comme vous l'indiquez plein de reprises dans le livre, quand ils mobilisent à tel point qu'ils ont mobilisé, ça ne peut pas durer des années, parce qu'en fait, c'est quand même un pays qui a besoin de vivre et de. Ces gens-là, il faut qu'ils travaillent, qu'ils fassent vivre l'économie.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils vont pas pouvoir attendre plus longtemps que le Hamas, quoi. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose.
Oui, bien sûr. Israël est condamné à des guerres courtes, ou des guerres de haute intensité courtes, ou alors des conflits de basse intensité s'ils veulent durer longtemps. Soit sprint, soit l'endurance. Là, ils ont mobilisé, par exemple, 360 000 réservistes. C'est comme si on retirait de la population active française 3 millions de personnes d'un seul coup, quoi. Donc forcément, ça perturbe quand même très largement la société. Or, actuellement, ils en sont toujours, toujours 290 000 réservistes qui sont sous les drapeaux. Donc l'effort est toujours aussi important. L'impact sur la société israélienne est aussi important. Mais encore une fois, c'est pas très bien en réalité où on va, quoi.
On y reviendra évidemment, mais là il va s'agir d'adopter un peu la logique chronologique du livre. Et puis je voudrais déjà poser tout de suite une hypothèse assez centrale dans votre explication en gros de ce que Israël réussit à faire, et surtout de son incapacité relative, fluctuante, à gérer la question des mouvements palestiniens, des mouvements armés plus ou moins terroristes palestiniens. Si vous avez cette hypothèse d'un écartèlement assez central et assez structurant d'Israël depuis la fondation, entre deux tâches stratégiques qui sont extrêmement différentes et pour lesquelles ils n'ont qu'une seule armée, c'est d'un côté, il fallait savoir faire la guerre aux États arabes qui ont déclaré la guerre tout de suite, et puis, des 47, quoi. Et ensuite, il faut aussi savoir faire de la contre-insurrection. Et puis, donc, ils n'ont qu'une seule armée pour faire ces deux choses différentes. Et il y a une des deux tâches qui est un peu passée à l'as, quoi.
Oui, alors c'est un problème qui n'est pas spécifique d'ailleurs à l'armée israélienne. Hein. On a connu un peu aussi la même situation. Mais si vous voulez, oui, depuis l'origine, depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1948, considère, du point de vue stratégique, qu'Israël est menacé, deux grands ennemis, deux types d'ennemis en tout cas. L'ennemi extérieur, ce sont tous les États qui l'entourent et dont on pense à l'époque qu'ils seront des ennemis un peu à jamais, quoi. Et puis il y a l'ennemi dit intérieur, en gros intérieur aux limites de la Palestine britannique, du mandat britannique, et qui est un ennemi d'un tout autre type, qui est un ennemi, c'est des organisations armées, c'est des rebelles plus ou moins organisés. Et évidemment, c'est pas du tout la même logique, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même forme de guerre. Mais dans un premier temps, ils ont développé comment dire, un outil militaire pour faire face à la menace principale, qui était celle des États, dans un contexte particulier, où ils considèrent qu'ils ne peuvent pas faire la paix avec, avec les États arabes, ce qui est une erreur, hein, mais, parce que l'histoire a montré que finalement ils l'ont fait, que c'était possible, mais ils sont persuadés que ce seraient les États arabes étaient des ennemis à jamais, quand même, et que eux-mêmes se plaçaient dans la situation de David par rapport à Goliath, et que dans cette situation, ben, il fallait donner des coups régulièrement, très fort. Dès qu'il y avait l'apparition d'une menace aux frontières d'une armée, eh ben, il fallait détruire cette armée le plus vite possible. On l'a évoqué, hein, il faut faire les choses vite et il faut faire les choses fort. Et pour à la fois pour éliminer la menace et puis peut-être aussi pour dissuader de recommencer assez vite.
Et c'est captivant parce que vous rappelez bien un truc qui est assez évident quand on y pense, mais qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que c'est un pays minuscule et que si on se laisse surprendre, bah, en fait une colonne blindée, ça traverse le pays en quelques heures. Donc on n'a pas trop le temps de, on peut pas la faire à la russe, de, on va se retirer, échanger de l'espace contre du temps. Là, en fait, il faut être très rapide et voire même prévenir l'attaque et donc se déporter vers l'extérieur, frapper très fort au-delà des frontières.
Ça impose, alors oui, à l'époque où la Jordanie occupait la Cisjordanie, par exemple, un canon jordanien pouvait tirer en Méditerranée, quoi. L'espace est petit et étroit. D'où la nécessité d'avoir un excellent service de renseignement et d'alerte. Il faut prévenir les menaces. Il ne faut pas se laisser surprendre, on va le dire autrement. Et puis ensuite, dès qu'il y a perception d'une menace, il faut réagir très vite. Or, comme c'est aussi un petit pays qui ne peut pas avoir une armée importante, permanente, il est obligé de faire appel aux réservistes. Donc il faut avoir un système de mobilisation extrêmement rapide, très, très important. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, finir les choses assez rapidement pour démobiliser également assez vite. Mais donc voilà, il y a cette culture qui se met en place de surveillance un peu... culture un peu parano, hein, mais avec de bonnes raisons. Hein. Ouais, je veux dire, même les paranos ont des ennemis, c'est bien connu. Mais voilà, un peu anxieuse, hein, forcément, face à considérer que les ennemis, il faut surveiller en permanence ce qui se passe, et puis frapper toujours très fort, avec... et c'est là qu'il y a peut-être... enfin, une particularité, c'est qu'il y a un peu le sentiment que ce sera forcément... un combat de Sisyphe, hein, comme voilà, ce personnage mythologique qui est condamné à ramener un rocher en haut de la colline et à le voir retomber dans la foulée en bas. Voilà, ils ont un peu le sentiment que ce sera une sorte de guerre éternelle, en réalité, un combat éternel, mais qu'ils assument en disant, ben voilà, ben, tant pis, on aura le temps, et on a la force et le temps, et ça durera le temps qu'il faudra.
Là où c'est captivant, c'est que ça marche, enfin oui, ça a marché à l'échelle des guerres arabes, enfin des guerres contre les États arabes, bon, avec plus ou moins, quoi, mais globalement, 56, 67, 73, c'est plutôt des succès,
oui.
Mais que, comme vous l'indiquez, enfin, ils savent faire un truc, et du coup, ils le font aussi face à l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens, sauf que... ce truc de on va taper très fort sur le bec d'un État et ça va le dissuader et ils vont pas y revenir de sitôt, bah, face à des Palestiniens qui sont surtout après 67, donc où toute la Palestine anciennement britannique est occupée par Israël, ils peuvent aller nulle part et enfin il n'y a pas vraiment de dissuasion qui est possible. Donc en fait, c'est ce que vous indiquez, c'est qu'ils ont un mode d'action, c'est taper très vite, très fort, très loin, enfin, au-delà. Sauf que ils le font un peu indistinctement, quoi.
Oui, c'est-à-dire que dès que le problème dit intérieur, enfin des problèmes palestiniens apparaît, c'est-à-dire dès 1948, hein, donc toute cette période, ce qu'on appelle les Palestiniens appellent la Nakba, donc c'est l'exode. Avant 1948, vous avez à peu près 800 000 juifs et 700 000 arabes sur le territoire de la Palestine. Sur l'État d'Israël, il n'y a plus que 100 000 arabes, en fait, qui restent à ce moment-là. Au passage, d'ailleurs, vous notez combien les choses sont désertiques. À cette époque, il y a 80 000 habitants à Gaza, hein, il y en a 2,3 millions maintenant. La population globalement a été multipliée par 10 depuis cette époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre qui existait avant la création d'Israël. Puis au moment de la création d'Israël, ben, il reste 100 000 Arabes. Comment dire, ça convient bien en réalité aux Israéliens qui ont une politique qui est à ce moment-là qui est très inclusive. Hein, la déclaration d'indépendance de
Ben-Gourion
parle pas d'un État juif, elle parle d'un État où tous les citoyens sont totalement égaux. Mais il y a quand même cette idée que les Juifs ne doivent pas être en minorité. Quelque part, et ils ont de bonnes raisons de craindre ça. Hein. On rappelle qu'on est quand même à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Donc il y a toujours cette idée que voilà, la population, tant que la population juive est très majoritaire, bon, mais on peut se permettre éventuellement d'absorber ou d'assimiler ou ce qu'on voulait, enfin de faire des Arabes des citoyens comme les autres, mais il ne faut pas que cet équilibre soit perturbé. Et donc ce qui se passe au moment de la création d'État Israël et l'occupation de la Cisjordanie par la Jordanie et de Gaza par l'Égypte, c'est qu'on voit arriver ce qu'on appelle les infiltrations. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les Palestiniens qui veulent revenir chez eux, les endroits qu'ils ont occupés, qu'ils ont abandonnés, souvent dans l'espoir de revenir en réalité très vite. Ils ont abandonné pendant la guerre. Mais ça ne se passe pas très bien, effectivement, puisque les Israéliens refusent globalement ce retour. Et que là où se trouvaient les implantations d'Arabes, il y a de plus en plus de colons juifs qui sont mis en place, qui arrivent du monde entier, et qui eux-mêmes d'ailleurs sont quand même un peu pressés de sortir aussi des pays arabes. Hein. C'est-à-dire, l'exode, il va un peu dans les deux sens quand même. Hein. Les mouvements vont largement dans les deux sens. Et donc, c'est face à ces infiltrations qui deviennent de plus en plus violentes parfois. Il y a des représailles, il y a des actes de violence. Alors, c'est par rapport à la menace extérieure, c'est marginal en réalité. Hein. Mais quand même, il y a un certain nombre d'Israéliens qui sont tués à la frontière. Et donc, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Et bien, comment réagit-on? De la même façon que contre les États arabes. C'est-à-dire qu'on va, on s'est dit qu'on en fait, on va protéger effectivement autant que possible toutes ces frontières, toutes les colonies, et ensuite on va faire des représailles. Donc on va attaquer, on va attaquer les villages de réfugiés palestiniens qui sont de l'autre côté de la frontière, en Cisjordanie ou à Gaza. Quoi.
Avec un personnage qui se distingue déjà par son humanité, oui, et sa bienveillance à ce moment-là, qui est Ariel Sharon, donc futur Premier ministre.
Oui.
Et au sein de ce qu'on appelle l'unité 101, donc c'est vraiment de la même manière qu'ils pourraient faire des raids, des attaques préventives contre les États arabes, ils le font, mais contre les villages de réfugiés,
oui,
à Gaza.
Contre les villages palestiniens, c'est un peu ça, avec cette difficulté, avec ce problème en tout cas particulier, que c'est pas la même chose que d'attaquer des brigades blindées ou d'attaquer des unités constituées. Là, on attaque des villages, en réalité, où à l'intérieur se trouve un certain nombre de combattants irréguliers, qu'on a un peu de mal à distinguer de la population, dont ils sont issus, bien souvent ça se termine relativement mal. Sharon est crédité notamment sur une unité d'un certain nombre d'exactions ou massacres du village de Kibia, notamment en Jordanie, en 1953, qui aboutit à des dizaines de morts civiles. Quoi. Mais au passage, et on revient un peu à la question initiale, c'est que on a une seule armée pour faire face à deux types de menaces. Quoi. Et autant combattre des armées régulières, arabes, ça pose pas de problème. Alors c'est difficile, c'est violent, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est relativement simple. Et puis surtout, moralement, ça pose pas tellement de problèmes éthiques. En revanche, s'attaquer à des organisations armées incrustées dans la population, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce jeu qui en fait devient très vite un jeu d'attaque et de représailles de part et d'autre, beaucoup de militaires israéliens qui, il faut le rappeler, sont des appelés pour leur immense majorité, ça les gêne énormément. Quoi.
Mais ce qu'il y a de captivant là-dedans, c'est que, c'est par ailleurs tout à fait dans l'esprit du temps, mais notamment après 67, ils occupent, voilà. Et en fait, c'est une guerre, c'est des combats de contre-guérilla, de contre-insurrectionnel, et ce qui est totalement dans l'esprit du temps. Enfin, je veux dire, il y a eu pas longtemps avant la guerre d'Algérie, il y a le Vietnam, etc. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait. Il y a des doctrines, il y a des réflexions sur gagner les cœurs, les esprits, d'ailleurs avec un succès inégal. Hein. Mais ça, manifestement, ça n'a pas percuté du tout Israël, qui ne mène jamais cette espèce de travail de la population, dont on a quand même fini plus ou moins par comprendre pour les pays occidentaux que c'était quand même un peu le point d'équilibre qu'il fallait rechercher. Ça, on a l'impression que les Israéliens ne font jamais cette espèce de d'aggiornamento doctrinal qui dit il va falloir travailler la population si on veut que ça se passe bien sur le long terme. Ils restent sur un truc assez répressif doctrinalement, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors déjà, c'est pas une armée de doctrine, pas une armée de théoriciens. C'est des gens. Je reviens, il y a énormément de turnover. Dans cette armée, c'est une armée vraiment de praticiens, souvent très jeunes. Ça, c'est un élément important. Pendant très longtemps,
la limite d'âge, c'est central. Le turnover, c'est parce que c'est des appelés, donc en fait, il faut qu'ils réapprennent en permanence. Quoi. Il y a pas de, le savoir-faire a du mal à se transmettre.
C'est vrai. Alors, il y a un corps d'officiers, petit corps d'officiers permanent, mais qui est également très jeune, qui, avec beaucoup de transpiration avec le monde civil, beaucoup de réservistes, etc. Bon, ce qui est une force, au passage. Hein, c'est pas forcément une armée de théoriciens, ça, c'est le premier élément. Ils font vraiment de la théorie à partir des débuts des années 2000, où là, il y a des documents de doctrine israélienne. C'est à l'époque où on travaillait d'ailleurs avec eux, mais qui étrangement ne s'intéressent pas forcément particulièrement à la contre-insurrection, quoi. Ils sont sur d'autres choses. Et puis ils considèrent aussi que leur expérience est un peu unique. Ça aussi, c'est très particulier quand on discute avec eux. Ils nous disent volontiers vous pouvez apprendre de nous, mais à aucun moment ils nous demandent ce qu'on, globalement, pour le contact que j'avais avec eux, ce que nous, ils ne nous demandent pas grand chose sur notre expérience spécifique. Dans ce cas particulier, du traitement de la population, alors effectivement, il y a toutes les théories sur l'idée qu'il faut s'associer la population, la bataille des cœurs et des esprits, etc. etc. Eux le pratiquent assez peu en réalité, en partie parce que, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a ceux en Israël qui considèrent que les Palestiniens sont des gêneurs et que ce serait pas mal s'ils allaient rejoindre leur véritable patrie, je mets tout ça entre guillemets, c'est-à-dire la Jordanie, ça ferait des problèmes en moins, ou l'Égypte dans le cas de Gaza, donc il n'y a pas de raison particulière de les aider. Il y a ceux qui considèrent que c'est un exercice de toute façon vain parce que ces gens-là, de toute façon, détestent les Israéliens, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a ceux qui disent, par la force des choses, ils sont associés à la vie économique d'un pays dynamique, prospère. Le niveau de vie d'un Palestinien en Cisjordanie est supérieur à celui des Arabes des pays environnants. Quoi.
Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils font empiriquement ce qu'on disait qu'il fallait le faire pour l'Algérie, par exemple, française, c'est-à-dire en fait, il faut les associer économiquement et ça finira par faire une convergence de destin, une communauté, etc. etc. Eux, de fait, ils intègrent relativement, pas totalement, mais ils intègrent relativement les Arabes israéliens, et puis même au-delà, à la vie économique d'Israël, qui est un vrai développement économique, mais il n'y a jamais le concept autour de on va s'appuyer là-dessus pour essayer de déminer les trucs, quoi.
Oui, c'est vrai, mais ils considèrent que finalement, c'est pas utile, ou alors que ça va de soi, et que les Palestiniens doivent être contents d'être dans les territoires occupés, doivent être quand même contents de faire partie de cet ensemble qui est plutôt florissant. Comme en Algérie, l'homme ne se nourrit pas que de pain, il peut avoir aussi des aspirations autres, et notamment politiques, et que, oui, effectivement, Cisjordanie, vous avez actuellement un niveau de vie des Palestiniens qui est à peu près de 4 000 $ par habitant, par Palestinien. C'est supérieur aux pays arabes voisins, mais israélien, c'est 50 000 $ par an, quoi, le niveau de vie. Donc déjà, même si il faut toujours savoir avec qui on se compare, ils ne se comparent pas aux autres Arabes, ils se comparent aux Israéliens. Et puis surtout, il n'y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que ils sont sous pression, ils n'ont pas de droits civiques, ils sont contrôlés en permanence, ils ont l'impression de vivre en situation d'être quadrillés en permanence. Ils ne peuvent pas aller, pour un Palestinien sur Jordanie, aller voir la Méditerranée, c'est une épreuve de force, quoi. C'est quasiment impossible, quoi. Donc ils sont en sorte piégés et frustrés dans cet ensemble. Donc mécaniquement, au bout d'un moment, ça suscite quelques ressentiments qui se transforment de temps en temps en violence, oui, forcément.
Même violence, même structurée, puisqu'à partir de 68, il y a une vraie guérilla, pour le coup, qui se met en place, notamment à partir de Gaza. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit quelque chose se mettre en place déjà à ce moment-là, même si c'est très embryonnaire et si on le relit 40 ans plus tard, on comprend. Mais c'est encore Ariel Sharon, mais qui décide donc de faire une doctrine pour lutter contre cette guérilla. Et toujours la même chose, de taper très fort, mais avec une sorte de culture du résultat ça baisse un peu temporairement les attaques, c'est donc qu'on a réussi, quoi. Et sans jamais se préoccuper, avoir cette préoccupation un peu compréhension sociétale de est-ce qu'on pourrait comprendre comment ça joue dans la société palestinienne, c'est bon, les attaques ont baissé, on est donc très fort et le problème est en voie d'être résolu, quoi.
Bah écoutez, j'étais la première fois que je suis allé en Israël, c'était fin 2004. Donc avec plusieurs officiers français là, et puis on va à Israël, puis ils nous font un briefing sur la situation. Donc on est en 2004, on est vers la fin de la deuxième intifada, le colonel qui nous fait le briefing commence en disant ben voilà, pour nous le problème palestinien est résolu. On le regarde, oui, et il nous montre un PowerPoint avec les courbes des attaques, des attentats suicides, qui effectivement chutent depuis notamment la création du mur de protection. Et il dit, voilà, plus d'attentats, plus de problèmes. C'est peut-être un peu court, mais bon, admettons. Mais voilà, c'est vraiment cette vision un peu court-termiste où on considère, et un autre me disait, c'est un élément fondamental, une idée, mais en fait, on ne veut pas la paix. La paix, ça demandera un effort incroyable, c'est pas possible. En revanche, ce qu'on peut avoir, c'est la sécurité. Et donc, on va se contenter de ça. Et donc, on va faire de la police, et puis on va réduire autant que possible la menace. Et puis après, le temps, on verra dans 100 ans où on en est, quoi. Donc, c'est ça. On a un certain nombre d'indicateurs chiffrés, le nombre d'attaques, le nombre de trucs comme ça. Et puis, si ça baisse, tant mieux, c'est qu'on a réussi. Mais il n'y a pas de recherche de résolution des problèmes profonds. Il y a cette idée que voilà, il y a deux emplois possibles de la force. Hein. Il y a la guerre, la police. Et là, en fait, ils font de la police, quoi. C'est-à-dire qu'ils maintiennent autant que possible l'ordre.
Mais ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est pas marrant du tout, mais c'est qu'ils sont, ils savent pas très bien faire. La police va vous le montrer bien. Ça se voit déjà dans les années 70. Ça se voit quand ils arrivent au sud Liban en 78 et en 82. C'est que c'est une armée, donc avec en plus des conscrits. Je veux dire, policier, c'est quand même un métier. Ça prend, et c'est pas le même quand on forme un appelé pour se battre dans des chars, vraiment, c'est déjà quelque chose, c'est déjà, on n'est pas sûr qu'il est bien percuté à la fin de son service. Lui apprendre en plus un deuxième métier qui est extrêmement complexe, qui est celui de police, ça marche mal. Et alors ça se voit au sud Liban, mais ça se voit aussi dans les territoires palestiniens. Enfin, ils n'y arrivent pas, quoi. L'outil n'est pas dimensionné pour ça.
Ou faire du maintien de l'ordre, c'est un vrai métier, quoi. On a pu le voir par exemple chez nous pendant les manifestations de Gilets jaunes. Comment c'était géré, c'est un vrai métier, quoi. Et donc là, vous engagez des militaires. Déjà, ces territoires occupés sont sous occupation militaire. C'est une administration militaire. Donc c'est l'armée qui est en charge de gérer au moins la sécurité et même l'administration un peu de ces territoires. Que lorsque éclatent notamment les intifadas, il faut faire du maintien de l'ordre, tout simplement. Et on envoie des jeunes. L'armée israélienne, c'était l'armée de jeunes. Il faut bien comprendre ça. Un autre officier israélien me disait un jour, nous, ce qu'on vous envie, c'est vos vieux soldats, quoi. C'est vos vieux caporaux-chefs. Alors, vieux, c'est à partir de 25 ans, quoi. Il faut être clair. Vos sergents, quoi. Nous, nos jeunes, faites l'âge moyen. J'ai calculé l'âge moyen des soldats dans les brigades d'actives, des appelés qui sont engagés à Gaza, enfin, ceux qui sont tués. Leur moyenne d'âge, c'est 20 ans et 8 mois. Il m'a dit, voilà, mais nous, les gars, ils ont 20 ans. Et le sergent qui est derrière, qui est normalement celui qui va gérer les choses, qui va assurer, qui va verrouiller, il a 21 ans, quoi. Donc ils réfléchissent comme des jeunes, quoi. Et quand ils se prennent des cailloux sur la gueule, une fois sur deux, il va défourailler, il va réagir.
Ce qui est très intéressant, c'est que l'âge, c'est pas. Enfin, il y a plein d'unités d'infanterie, oui. Notamment les Marines aux États-Unis sont une force d'infanterie d'élite et extrêmement jeune, oui. Mais c'est pour des actions très agressives, très offensives, avec un cadre, etc., avec par ailleurs des sergents, etc., qui sont eux beaucoup plus âgés. Donc l'âge en soi moyen n'est pas rédhibitoire. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'encadre et comment est-ce qu'on sait gérer les contraintes que ça a pour telle ou telle mission, quoi.
Oui, mais encore une fois, pour faire des missions de combat face à des armées arabes, il n'y a pas de problème.
C'est même bien, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie.
Oui, tout à fait. Non, mais Sharon commande une division blindée, il a 30 ans, quoi. Il est général, il a 30 ans. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand il s'agit de gérer des problèmes un peu compliqués au milieu de la population, où on ne sait pas qui est qui fait quoi, où vous avez des enfants en face de vous qui vous jettent des cailloux, cailloux. Enfin bon, là, ça demande un peu plus de, je veux dire, un peu plus de calme, le calme des vieilles troupes. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, souvent, dans les situations les plus compliquées, ils préféraient envoyer des réservistes. Des gens un peu plus mûrs, des pères de famille et qui faisaient un peu moins n'importe quoi. Mais ça, c'est effectivement un vrai problème. Et j'y reviens, c'est surtout un problème d'encadrement, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pour prendre un exemple récent, quand vous avez, donc au milieu de Gaza, quand vous avez d'un seul coup, vous avez trois prisonniers qui... Trois otages israéliens qui réussissent à s'enfuir, qui sortent dans la rue, qui sont avec un bandeau help, qui sont en torse nu pour montrer qu'il n'y a rien et qui parlent en hébreu. Et ils tombent sur un soldat israélien un peu paniqué qui commence à leur tirer dessus, et puis les autres tirent dessus, et puis vous n'avez personne derrière qui est là pour arrêter ces choses-là. Si on fait la différence en termes de moyenne d'âge, vous prenez un régiment d'infanterie français, la moyenne d'âge est aux alentours de 30 ans. On a des gars qui sont très jeunes, bien sûr, mais vous avez un encadrement solide derrière. Là, on a 10 ans de décalage, et du coup... le potentiel à connerie est un peu inférieur lorsque c'est verrouillé. On est une situation où un seul individu peut provoquer une catastrophe, quoi. Et donc, dans ces cas-là, il faut extrêmement bien verrouiller les choses dans les situations complexes. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, et c'est d'autant plus que, oui, il y a un turnover permanent. Donc, il faut en permanence réinventer l'eau chaude. Il n'y a pas de capitulation. Pas de capitulation, mais pas de capitalisation, ouais. Pardon, d'expérience dans cette armée. C'est une armée à mémoire courte, donc il faut recommencer en permanence. Et quand vous les engagez, je pense l'opération Litanie en 78, donc c'est la première grande opération militaire, on va appeler de contre-terrorisme. L'idée, c'est d'aller détruire, c'est après une série d'attentats, alors c'est à bien moindre échelle que le 7 octobre 2023, mais vous avez une série d'attaques dans le nord d'Israël qui sont très meurtrières de la part de l'OLP, à l'époque, et décide de lancer une grande opération dans le sud du Liban, c'est l'opération Litanie, où ils engagent comme ça, oui, effectivement, des soldats, des jeunes, forcément, des unités de jeunes, et c'est très violent, au bout du compte. Et donc, ça provoque des réactions internationales, une indignation, les résolutions des Nations Unies, etc., etc. Donc, ça, c'est un problème permanent. Ils n'ont pas osé faire le pas d'une armée mixte, une armée professionnelle avec des unités professionnelles qui seraient chargées éventuellement des choses, des missions les plus complexes. Mais il y a aussi un problème, c'est-à-dire qualitatif, mais aussi un problème d'ampleur de la tâche, quoi. C'est-à-dire que s'emparer, par exemple, de conquérir Gaza, tenu par des 30 à 40 000 combattants palestiniens, ça demande aussi du volume de masse. Nous, on serait bien incapable de faire cette mission, hein, avec notre volume de force. Donc, il faut un volume de force, et pour ça, pas 36 solutions, il faut des soldats appelés, dont on rappellera qu'ils font quand même 32 mois de service, et pour les hommes. Et en plus, il faut rajouter des réservistes. Ça reste un petit pays, Israël, 10 millions d'habitants à peu près, et qui doit faire face à des problèmes militaires de grande échelle, quoi. Et donc, il faut qu'ils fassent, encore une fois, avec cette armée, avec ses qualités et ses défauts.
Mais alors, là où c'est aussi captivant, c'est que il y a aussi une culture dont on parlait, du secret, du renseignement, enfin des opérations, mais... Là, on voit que, étrangement, ça ne marche pas bien pour les Palestiniens, c'est-à-dire les intifadas, visiblement, ils sont surpris, ils ne comprennent pas bien. Puis le Hamas, ils ne comprennent pas bien, par exemple, le fait que ça fait des décennies que le Hamas, ils forment des cadres, parce qu'ils ont une université, etc. Donc, ils forment des cadres dans tout Gaza, enfin, plus largement, quoi. On voit cette espèce de... Alors que, enfin, je veux dire, on en fait des caisses sur les services de renseignement israéliens, mais... Visiblement, les sociétés palestiniennes, c'est un peu leur angle mort, soit parce qu'ils pensent avoir compris, soit parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à comprendre. Mais en tout cas, quand ça explose, visiblement, ça les prend un peu de court.
Oui, c'est assez étonnant, effectivement. Ils ont été surpris par les intifadas, ils ont été surpris par plein de choses. 7 octobre, on pourra en reparler, bon, c'est effectivement un désastre du renseignement israélien, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on revient toujours à cette idée de jeunes. Alors c'est à la fois un avantage, c'est-à-dire que vous prenez plein de jeunes étudiants, des ceintures noires de cyber, de tout ce que vous voulez, ben, vous les récupérez, vous les amenez dans des unités spécialisées, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Israël est en pointe en matière de surveillance électronique, de renseignement, et notamment vous avez l'unité 8-200, qui est l'unité de renseignement, on va dire, électronique de l'armée israélienne, du service de renseignement de l'armée israélienne, Aman, et qui, en fait, est peuplée de jeunes, de tout jeunes. Ils ont 20 ans. Alors, c'est très start-up, start-up nation. Et donc, ils ont mis au point tout un tas de systèmes, c'est de surveillance, l'emploi de l'intelligence artificielle à grande échelle. Donc, c'est super. Ils ont trouvé... Ben, techniquement, c'est parfait. Mais y a, parmi ces jeunes, il n'y en a aucun qui sait ce qui se passe dans la tête d'Aya Sinoir, de tous ces vieux Palestiniens qui sont en face d'eux, qui ont connu la prison, et qui sont là depuis 20 ans, quoi, et qui connaissent les Israéliens par cœur, par contre, et ça, ils n'arrivent pas à comprendre, ils ont un peu de mal en tout cas. Et donc, oui,
ils peuvent... C'est le renseignement à l'ancienne qu'ils n'ont pas... Enfin,
oui, oui, par infiltration, par... oui, et puis, comment dire, il y a... La société israélienne, c'est de plus en plus coupé aussi des Palestiniens. On se rencontre moins, quoi, les Palestiniens, notamment depuis la création de ce mur de défense, quoi, au début des années 2000. Avant, il y avait, voilà, on se rencontrait, les Palestiniens venaient travailler en Israël très, très fréquemment, il y avait beaucoup plus de rapports. Et là, il y a une vraie coupure. Ça devient deux mondes. Donc, vous avez beaucoup d'Israéliens qui, au bout du compte, n'ont jamais vu un Palestinien, qui, enfin, de territoire occupé, qui ne sont pas allés. C'est un autre monde, c'est au-delà du mur, et inversement, bien sûr. Et donc, vous avez une vraie coupure, et donc, on se connaît un peu moins, en réalité. Et en même temps, il y a aussi une forme d'abstraction qui se fait. Et donc, quand vous attaquez de l'abstraction, c'est plus facile que de découper des chairs de gens que vous connaissez. Et donc, ça aussi, ça a contribué, d'une certaine façon, aussi l'augmentation de la violence.
Mais du coup, ils ont trouvé leur solution. Au début des années 2000, il y a un paradigme qui apparaît, qui est, bon, bah, donc on n'a pas envie de se casser la tête sur gérer la proximité et les dangers que ça impose. Du coup, bah, on se retire. Donc il y a un vrai désir de se retirer des galères. Donc Gaza, le Sud-Liban, on en fait des espèces de zones tampons, enfin, on essaie de construire des défenses autour, alors c'est le mur à Gaza, Sud-Liban, enfin, il y a des régions, enfin, il y a un tampon naturel, etc. Mais bon, l'idée, c'est on met un peu de distance pour voir les coups arriver, et puis, bon, de temps en temps, quand il faudra, on y va, mais on y va vite, et c'est l'idée, alors qui n'est pas encore tout à fait conceptualisée à ce moment-là, donc au début des années 2000, mais l'expression va apparaître dans la décennie 2000, c'est l'idée de couper le gazon. Oui. C'est l'idée, bon bah voilà, donc ils peuvent pas nous faire bien du mal parce qu'il y a les zones tampons, et puis quand ils commencent à vraiment être un peu énervés et que ça commence à devenir dangereux, on y va vite, on coupe le gazon, de toute façon on ne résout pas le problème, mais bon, on y retournera quand il faut y retourner, mais... Il n'y a pas de danger structurel, quoi. C'est ça l'idée.
Oui, c'est ça. Et encore une fois, on est un peu à la recherche d'une méthode universelle, quoi, qui permet de faire face à tous les problèmes. Et donc, ce sera le bouclier et l'épée. Donc, le bouclier, c'est tous les systèmes de défense. Donc, il y a le mur, la frontière, depuis la frontière libanaise jusqu'à la clôture autour de Gaza. Il y a un mur anti-aérien aussi, parce que la menace peut venir aussi de l'extérieur, peut venir des frappes irradiées. Par exemple, et les Israéliens ont été quand même assez traumatisés par l'expérience de 1990 lorsqu'ils ont été obligés de subir des frappes de la part de l'Irak, des missiles Scud qui tombaient, ils étaient complètement impuissants. Et ça a marqué les esprits. Donc depuis cette époque, on dit voilà, il y aura un mur de défense, notre ciel sera protégé et notre sol sera également protégé. Bon, ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est que derrière ce mur, ben, finalement, on va se réfugier. Le mur attire toujours le désir de se planquer derrière. Et se disent, ben, oui, pourquoi galérer à occupé le sud Liban. Ils ont 1000 soldats tués au Liban, les Israéliens. C'est pas une expérience extraordinaire, quoi, pour eux. Et Gaza, bon, Gaza, est-ce que c'est vraiment stratégique? Bon, donc pour eux, ce qui est vraiment stratégique, c'est la Cisjordanie. Oui, ça c'est important. Et encore, même en Cisjordanie, après les accords d'Oslo, ils laissent ce qu'on appelle la zone A, c'est-à-dire les villes, les principales villes de Cisjordanie, sous le contrôle, sous l'autorité palestinienne. Voilà, ils conservent ce contrôle, ce qui est vraiment essentiel pour eux, parce que quand même 60% du territoire. Pour le reste, eh ben, on l'évacue. Donc en 2000, ils évacuent le sud du Liban. En 2005, ils évacuent Gaza militairement. Et avec cette idée, comme vous l'avez dit, ben, on peut contrôler à distance. Dès qu'une menace apparaît, ben, on va taper dessus, tout simplement, grâce à notre puissance. Et ça, c'est l'épée. Et notre épée, c'est une épée essentiellement aérienne, une épée volante. Donc ils ont une force de frappe aérienne qui est considérable et qui leur permet là aussi de faire face un peu apparemment à tous les problèmes. Donc
là aussi c'est captivant, c'est que c'est les trucs classiques de la contre-insurrection aussi. On le sait depuis les années 60-70 que ça ne marche jamais, la contre-insurrection venant que des armes. Enfin, les Américains peuvent témoigner au Vietnam que voilà, ça a été un succès très très relatif. Et c'est comme s'ils avaient rien intégré de... Alors certes, le Gaza n'est pas le Vietnam, enfin bon, ok, mais comme si ces évolutions doctrinales structurantes dans la pensée occidentale de la guerre, pour eux, ça les concernait pas, quoi.
Oui, mais il y a cette idée que c'est pas grave, c'est que ça permet de taper fort sans prendre de risques.
Et les attaques suicides diminuent, donc c'est qu'on a réussi.
Le mur, voilà, il n'y a pas d'attaque suicide. Il y a un problème, on va lancer une campagne aérienne, on va leur taper dessus, et puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Mais inversement, d'ailleurs, du côté palestinien, eux-mêmes ne peuvent pas, pendant longtemps, une fois que le mur est en place, aller affronter directement les forces israéliennes. Donc comment on fait pour agir? On balance des roquettes. Et donc, du coup, on se bat depuis le ciel, sans se voir au sol, pratiquement, sans se rencontrer au sol. Donc c'est une guerre où, au bout du compte, finalement, c'est la population civile qui en pâtit quand même très, très largement, et des deux côtés. Ils essaient de faire, ils appellent ça des opérations 1-0, c'est comme au foot, où ils disent, voilà, en fait, on a tellement la trouille de prendre un but, en termes militaires, c'est d'avoir des pertes humaines, qu'on se contente de faire une opération suffisante, avec des moyens sans risque. Et les moyens aériens, tant qu'il n'y a pas d'avions qui sont abattus palestiniens, c'est sans risque pour eux. Et ça nous suffit. On a un résultat qui est ce qu'il est. À partir du moment où les tirs de roquettes s'arrêtent, ça suffit. Et puis on tiendra comme ça le temps qu'il faudra. Le problème qui se pose, c'est que en abandonnant ces territoires, ils ont laissé un espace vide, qui a été occupé politiquement par des organisations, le Hezbollah au sud du Liban, le Hamas qui s'est imposé également progressivement dans Gaza pour en prendre le contrôle, devenir une sorte de proto-État. Et qu'à partir du moment où vous êtes dans cette configuration de quasiment de petit État, vous pouvez accéder à des ressources plus importantes, vous pouvez mobiliser des forces, vous pouvez vous entraîner, vous constituer. Enfin voilà, donc le Hamas, à partir du moment où le Hamas prend le contrôle de Gaza en 2007, sa puissance va cesser de croître. Alors de temps en temps, régulièrement, il y a des tombes de gazon, mais l'herbe continue à pousser et est toujours plus haute.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que paradoxalement, parallèlement, ce que vous montrez, c'est aussi une perte de savoir-faire et qu'on sent... Donc les opérations, on peut les faire, mais c'est donc 2006, pluie d'été, 2008, plan durci, 2012, pilier de défense, 2014, protectrice. Bon, bref, à chacune...
Tous les deux ans, il y a une grande opération militaire.
J'en ai oublié, mais bon,
oui, peu importe.
Mais à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de limites à l'action d'Israël, militairement, notamment dès qu'il s'agit du sol, typiquement 2006. Bon, alors il y a un truc pour récupérer Gilad Shalit à Gaza, mais en fait, surtout, c'est l'opération au sud Liban. Et là, on voit qu'ils sont tapés par le Hezbollah. Enfin, vous en avez écrit un bouquin, mais concrètement, on voit que là, on a un groupe para-étatique qui est capable de mener un combat d'infanterie, de tenir tête à Israël. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas trop prévu, mais c'est à chaque fois, ils vont se rassurer en disant, bon, ça, c'est le Hezbollah, mais du coup, on va moins s'en occuper.
C'est une anomalie, oui.
Mais en fait, ce qu'on voit très bien en voyant les contours de ces opérations successives, c'est qu'à chaque fois, la capacité d'Israël à reprendre l'avantage au sol, quoi, en fait, diminue. Et du coup, on arrive à la fin, on arrive à aujourd'hui, mais concrètement, il y a une vraie perte de savoir-faire dans le combat au sol, le combat d'infanterie, parce qu'on se... On met tout sur l'aérien. Sur...
Oui, alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect effectivement du côté de l'ennemi, hein, du côté palestinien. C'est, on voit bien par exemple dans les comptes rendus israéliens, opération pluie d'été en 2006. Bon, on pénètre dans Gaza, ça pose pas de problème. Les Palestiniens, les combattants palestiniens tirent en l'air et s'enfuient. Bon, ok. 2008, opération plomb durci. Donc il y a à nouveau des combats au sol. Et, tiens, là cette fois ils y tiennent et ils résistent. Bon, c'est pas très cohérent comme combat, mais ils restent là, ils résistent. Et puis 2014, opération bordure protectrice. Là, bah, ils tombent sur du dur, quoi. Ils tombent sur une vraie infanterie organisée, équipée. Entre-temps, il y a eu toute l'aide de l'Égypte, des frères musulmans. Hein, il y a eu un saut très important du Hamas à partir de ce moment-là. Et ils tombent sur des...
À voilà. partir donc, du printemps arabe de 2011.
Oui, oui, voilà.
De Moubarak, qui a donc ça a donné un petit coup de boost au
oui,
Hamas.
Oui, bien sûr. Bah, frères musulmans qui arrivent au pouvoir en Égypte. Le Hamas, c'est frères musulmans. Hein, c'est une émanation des frères musulmans. Donc, il y a une alliance de fait. Les Égyptiens fourguent dans Gaza une grande partie de l'armement récupéré dans la Libye de Kadhafi. Et puis il y a un vrai saut qualitatif qui se fait à ce moment-là. Le Hamas forme une infanterie vraiment professionnelle qui combat voilà, de manière tout à fait cohérente.
Et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est là où on sort de la guérilla. Enfin, on peut toujours dire que c'est de la guérilla parce qu'ils ne se rencontrent pas dans un champ à mi-chemin. Ouais. Ils ne se mettent pas sur la gueule comme ça. Mais c'est quand même du combat d'infanterie, c'est du freinage. Donc, du minage, des snipers, ben oui, c'est vraiment en fait ce qu'on apprend, ce qu'une section d'infanterie saurait faire dans un combat défensif.
C'est une vraie infanterie légère, hein. Ils ne sont pas équipés de blindés, ils ne sont pas équipés d'engins très lourds, mais c'est une vraie infanterie légère qui est bien adaptée à son milieu, une infanterie légère urbaine qui mène un combat tout à fait cohérent avec des compétences de bon niveau quoi, pour la plupart. Et donc là, en 2014, c'est un peu une surprise hein, pour les Israéliens, qui eux, pour le coup, bougent assez peu.
Ils mangent 66 morts quand même.
Oui, c'est une vraie surprise pour eux, effectivement.
Mais là où c'est aussi tout à fait fascinant, c'est qu'il y a encore une sorte de solutionnisme technologique, c'est qu'ils ont installé le système Trophy sur leur char, qui est vraiment un truc de numérisation assez poussé, etc. Et ça marche assez bien. Et du coup, il y a cette idée qu'ils ont un pas d'avance malgré tout. Enfin, il y a en fait plein d'indices. Si on veut les lire comme ça, on peut les lire comme les indices d'une toujours supériorité israélienne. Mais mine de rien, on voit que... Il y a un adversaire qui gagne en capacité. Enfin, disons, l'écart, dans ce contexte particulier, évidemment, que Gaza se restreint. Et il n'y a pas vraiment de solution qui est apportée, on a l'impression.
Oui, alors d'un point de vue militaire, effectivement. Alors d'abord, ça reste malgré tout une armée avec des moyens, un petit pays, on y revient, Israël, avec des moyens, même avec l'aide américaine qui est quand même très conséquente, mais ça reste quand même, le budget de défense israélien est très inférieur à celui de la France, hein, il faut être clair là-dessus. Et donc, il faut faire des choix aussi, on a plutôt investi dans le bouclier, l'épée et le bouclier, la surveillance électronique, les barrières, enfin tous les gadgets, tout ce qu'on veut, et surtout la force aérienne, qui est effectivement très performante, très puissante, et en revanche, on ne peut pas faire effort partout, et du côté des forces terrestres, et en partie du côté de l'infanterie, en réalité, les choses évoluent beaucoup moins, beaucoup plus lentement.
Parce que c'est une armée qui n'apprend pas, qui apprend peu.
Oui, c'est ça, et puis même, on n'investit pas énormément techniquement, pour le dire simplement, l'infanterie, les unités de combat qui ont attaqué à partir du 27 octobre 2023 dans Gaza, c'est quasiment les mêmes qu'en 2014, par exemple. Il y a eu très peu d'évolution. Il y a des systèmes techniques. Alors, ils utilisent beaucoup, comme les Trophy, donc la protection des véhicules lourds. Ils utilisent beaucoup leur puissance, leur force blindée. Donc, en gros, ils constituent des phalanges, véritablement, qui progressent sur les territoires. Ils font ça très bien.
Notamment bien marché en 2008, le Hamas, mais ils étaient tellement les Merkava, c'est des chars énormes. Bon, voilà, c'est vrai que sur certains, c'est difficile à arrêter une colonne de chars Merkava si on n'est pas vraiment dimensionné pour ça, quoi.
Oui, bien sûr, et où les véhicules d'infanterie Namer qui sont des châssis de Merkava à 60 tonnes, ces trucs. Bon, donc c'est ça, c'est une tactique de phalange, hein, ils progressent comme ça. Leur but étant d'assurer la protection, plus la puissance de feu, plus la coordination avec l'artillerie, avec la puissance de feu aérienne, les drones, etc. Enfin, tout l'environnement de feu qui fait que, voilà, ça. Au bout du compte, pour un soldat israélien, vous avez normalement 40 palestiniens combattants palestiniens qui sont tués, ce qui est un peu la norme dans ce genre de situation. En réalité, voilà, ça a relativement peu progressé en la matière. Et alors que le Hamas, lui, a continué effectivement à progresser de plus en plus, et peut-être même en volume. C'est-à-dire là, on se retrouvait avec une force du Hamas estimée à peut-être 30 000 combattants. C'est une petite armée de 30 000 combattants, le fantassin, léger, relativement bien équipé, bon, plus à peu près une dizaine de milliers d'alliés d'autres organisations.
Et surtout, ce qui est captivant de ce bordure protectrice en 2014, c'est qu'il y a On voit qu'ils c'est quasiment les prodromes de ce qui va arriver en 2023. C'est déjà des tunnels. Ils ont mis le paquet sur les tunnels et ça marche bien. À ce moment-là, ils peuvent circuler, ils réussissent à vraiment s'échapper. C'est marrant, en vous lisant, je savais pas, mais ils font encore des tunnels offensifs. Ils essayent, ils y songent, ils sont arrêtés un peu au dernier moment. Ils essayent même des coups en parapente, des plongeurs, autant de trucs qu'on verra réapparaître tous en même temps le 7 octobre. Mais on voit vraiment déjà à ce moment-là qu'ils commencent à tester les choses qui finiront par donner le succès tactique du 7 octobre.
Bien sûr, ils multiplient, ils réfléchissent tout simplement. Notre problème, c'est comment on franchit ce mur. Et donc ils essayent devant tous les moyens ils testent plein de choses et ils passent par-dessus, par-dessous ou à côté la grande nouveauté pour cette opération du 7 octobre, c'est que ils organisent véritablement la percée de cette muraille et ils organisent surtout la paralysie du système. C'est-à-dire que la nouveauté technique de cette attaque, c'est l'emploi massif de drones. Et donc, ils font très précisément une cartographie très précise de tout le dispositif israélien.
Et ça, juste, on va lire, c'est fascinant parce que vous indiquez, c'est notamment fait en 2018, parce que, donc en 2018, il y a ces espèces, s'en souvient pas forcément, mais c'est les marches du retour, des grandes manifestations où le Hamas envoie littéralement des gens se faire cartonner le long du mur. Et ils essayent c'est le moment, la manière dont vous le racontez, c'est ils voient les faiblesses, ils voient les points de rupture, ils voient comment on peut essayer de s'infiltrer, etc. Ils tentent déjà l'espèce de truc de submersion qu'ils vont faire. Et sauf que en 2018, ça donne rien vraiment, donc personne n'y prête trop attention.
Ils utilisent même des ballons en 2018 pour aller essayer de frapper au-delà, pour ravager les champs.
Donc il y a déjà des trucs, sauf que vu que c'est pas à très grande échelle, que c'est pas couronné de succès, tout le monde se dit c'est un truc un peu pourri. Sauf que en fait, c'est ce moment-là où ils ont vraisemblablement mis au point le modus operandi du 7 octobre.
Oui, bien sûr. Non, mais encore une fois, ces gens-là réfléchissent, ils font du retour d'expérience, ils analysent très précisément les choses, ils montent une opération qui, d'un point de vue militaire, est extrêmement bien, c'est assez remarquable, qui va déboucher sur une horreur absolue, mais ils arrivent à cartographier exactement tous les points, les caméras israéliennes sur le mur, les mitrailleuses téléopérées qui sont conduites à distance, ils repèrent tout ça, où sont les engins, les chars qui sont placés, etc. Et ce qui se passe le 7 octobre, c'est qu'ils attaquent tout en même temps. Donc notamment une série de drones qui vont casser, c'est très simple, qui vont aller taper toutes les caméras et on se retrouve une situation où d'un seul coup le dispositif israélien est aveugle, qui n'a jamais pensé qui n'a jamais proposé de plan B et qui en plus dans ce cas particulier se trouve dans une situation de faiblesse inédite dans son histoire. Pour qu'il y ait un choc, pour qu'il y ait un vrai désastre, il faut d'un côté des gens qui sont plutôt bons militairement et de l'autre côté des gens qui soient en défaillance, qui soient plutôt mauvais. Or, le dispositif israélien, militaire israélien, alors en partie certainement par assurance, par trop grande certitude, n'avait jamais été aussi faible qu'au moment du 7 octobre 2023. Et donc la conjonction des deux phénomènes a abouti à une catastrophe.
Et qu'est-ce que vous retenez de la manœuvre? C'est-à-dire, donc il y a ce truc qui est, cette opération qui est bien planifiée et bien coordonnée, et puis qui donne une horreur absolue dont on ne saura jamais à quel point elle était intégrante dans les plans du Hamas dès le début. On racontera des choses contradictoires là-dessus jusqu'à la fin des temps, notamment le Hamas. Mais qu'est-ce qu'on retient tactiquement de ça, de à la fois du succès du Hamas et puis surtout de l'espèce d'atonie d'Israël, puisque ça va mettre longtemps avant qu'ils se mettent en ordre de bataille.
Oui, mais c'est aussi c'est un peu un problème, peut-être un problème récurrent, hein, c'est de, israélien, c'est de temps en temps, ben, il y a ce qu'on appelle le balagan qui se met en place. Là, le balagan, c'est le désordre. Parce que voilà, on oublie, on est trop sûr de soi, etc. On peut faire le parallèle entre l'attaque du 7 octobre et celle du 6 octobre 1973 sur le canal de Suez. De la même façon, par les Égyptiens, qui avait été une opération extrêmement bien montée, organisée pendant des années, répétée. Enfin, c'est en termes de planification, c'est un véritable modèle du genre, l'offensive égyptienne, et qui a complètement surpris les Israéliens, avec aussi une manœuvre, par exemple, d'intoxication du renseignement, qui était particulièrement bien menée par les Égyptiens, mais qui a été également bien menée par les gens du Hamas, hein, qui ont intoxiqué quand même les services de renseignement israéliens, les fausses communications téléphoniques, qui sont dans les événements 2021,
Donc 2021, c'était la pluie de roquettes.
Oui, c'était, oui. C'est toujours la même chose, hein, c'est attaque de roquettes. Et puis, bon. Mais là, c'était le djihad islamique, l'autre organisation, bon, beaucoup plus petite, mais qui est présente notamment à Gaza, qui a mené les choses, et le Hamas ne s'en est pas mêlé. Donc c'est le djihad islamique à tout prix. Du côté israélien, on s'est dit, tiens, ben finalement, le Hamas peut-être, a peut-être compris, enfin, qu'à force de prendre des coups, que ça va...
Ils ont vu, ils vont monter une économie pacifique, oui, et prospère à Gaza. Et...
Exactement. Oui, ils se sont embourgeoisés, et puis, voilà, et puis ça a bien se passé. Donc ça, tout ça, ça contribue en fait à leurrer un peu les Israéliens, à les rendre un peu... voilà, et puis vous rajoutez quelques ingrédients de politique intérieure pure israélienne. Vous avez l'apparition des extrémistes au gouvernement de Netanyahou, qui eux-mêmes font une fixation sur la Cisjordanie et sur la protection des colons de Cisjordanie. Pour Gaza, c'est pas un problème. Donc, priorité des forces sur la Cisjordanie, la protection des colons, et en plus, élément conjoncturel, le 7 octobre, fête religieuse, c'est Shabbat, fête religieuse, et donc vous avez des endroits où vous avez, ce qui est complètement incroyable, mais vous avez que des 40% de soldats qui sont en permission, quoi, qui ne sont pas en unité de combat. Quoi. Et on n'y revient jamais, le dispositif n'était aussi faible qu'à ce moment-là. Donc. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que dès que l'action commence, elle est tellement inattendue, dès qu'ils arrivent à percer, la situation est tellement inattendue que on ne sait pas quoi faire. Quoi. Et notamment cet élément, c'est que tous les éléments de surveillance, notamment, sont centrés sur Gaza. Ils ne sont pas centrés sur le territoire israélien. Donc, une fois que les Palestiniens sont, combattants palestiniens sont en Israël, ils sont dans une zone aveugle. Quoi. Et les Israéliens, ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Quoi. D'autant plus que les Palestiniens attaquent tout de suite les centres de commandement qui sont à proximité de la frontière. Là aussi. Ils arrivent, ils attaquent notamment le poste de commandement de la division sud, et ils paralysent complètement le système. Donc il y a pendant au moins une journée, voire deux, les Israéliens sont complètement dans le flou. Quoi. Donc ils improvisent complètement une riposte, où ils finissent par... au bout du compte, éliminer une bonne partie de la force du Hamas qui a pénétré dans l'Israël. Mais voilà, le désastre est déjà fait. Quoi.
Mais qu'est-ce que vous pensez, parce que là, ce qu'on décrit, c'est... il y avait déjà eu des alertes et ça n'avait jamais provoqué ce qu'on pourrait appeler un choc systémique en Israël. Alors là, on espère, mais en même temps, on voit mal comment... Enfin, je veux dire, c'est quoi les pistes de recomposition? Parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'ils font ça. Oui. Ils sont complètement structurés comme ça, même ils ont des avions, quoi. On va en reparler mais ils s'en servent, oui, contre Gaza. Ils sont une armée de l'air extrêmement dimensionnée, donc c'est ça l'outil. Donc on va pas le mettre de côté, on va pas réinventer. Voilà quoi. Dans quelle mesure est-ce que il y a des pistes de recomposition face à ce choc du siècle?
Bah écoutez, quand on ne sait pas quoi faire, on fait ce qu'on sait faire, quoi. Donc, lorsqu'il a fallu faire face à ce vrai choc, en fait, le gouvernement israélien a réagi plutôt que réfléchi, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de plan véritablement. Je parle de mon livre de stratégie de corbeille à papier, quoi. En sociologie, c'est un truc où on dit, voilà, en fait, les décisions se prennent un peu les unes après les autres, comme des boulettes de papier qu'on jette dans une corbeille, et puis à la fin, on voit si ça forme quelque chose de cohérent, quoi. Donc là, ben, on ne sait pas quoi faire, ben, on balance immédiatement une campagne aérienne, quoi. Campagne aérienne qui est... on fait le blocus. On dit, voilà, blocus de Gaza. Bon, pourquoi c'est pas forcément très clair. À quoi ça sert? C'est pas forcément très clair.
Alors, on peut supposer que ça sert à éviter qu'il y ait plus d'armes qui arrivent. Enfin, bon, après,
oui,
les armes.
Non, mais le blocus des armes, il est déjà en place. Mais là on coupe l'eau, on coupe tout, quoi. Donc, ça frappe directement la population sans trop affecter, en réalité, le Hamas, hein, qui a fait des réserves et qui est prêt à... qui a anticipé tout ça. Qui, lui, au contraire, a l'avantage d'avoir anticipé toutes ces choses. Mais surtout, on lance une campagne de bombardement qui est inédite, qui est incroyablement violente, quoi. Là aussi, c'est, enfin bon, on pourra en parler, mais c'est assez incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'on fait face au Hezbollah? Qu'est-ce qu'on fait en Cisjordanie? Bon, on improvise, on dit, bon, il faut, en même temps, il y a l'énorme problème des otages à gérer. Donc on dit, il faut négocier quand même. Donc il y a une structure spécifique qui négocie, et en même temps, on crée une structure pour tuer les gens avec qui on négocie, quoi. On dit, voilà, l'opération Didier, on va flinguer tous les dirigeants du Hamas. Bon, pourquoi pas. Mais en même temps, le bureau d'à côté dit, mais attendez, mais c'est avec eux qu'on dialogue quand même pour résoudre le problème des otages.
Ouais, et puis c'est encore, vous l'écrivez quelque part dans le bouquin. C'est, donc en fait, on veut buter les responsables du Hamas. En fait, on voulait déjà les buter. Enfin,
c'est pas en sécurité. Hein.
S'ils avaient pu le faire avant, bah, ils l'auraient fait. Enfin, ça fait des années qu'ils essayent d'éliminer les dirigeants du Hamas. Donc on voit mal. Ils peuvent s'y mettre vraiment, vraiment. Mais enfin, je pense qu'ils s'y étaient déjà mis avant, quoi.
Oui, oui, bien sûr. Mais encore une fois, il faut montrer qu'on fait quelque chose, quoi. Il faut réagir, montrer que l'on fait quelque chose. C'est ça la vraie stratégie en réalité. Bon, et après, quel est l'objectif stratégique? Bon, détruire le Hamas. Bon, on est dans une situation où on n'est plus du tout dans les configurations des guerres précédentes, où, en gros, on se battait pendant quelques semaines, on se bombardait, on se frappait des roquettes de part et d'autre. De temps en temps, on faisait une incursion terrestre, et puis au bout de quelques semaines, via l'Égypte, comme intermédiaire, bon, on dit « Ok, allez, on arrête », et puis ça s'arrêtait là, quoi. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Après l'horreur, tout ce qui s'est passé le 7 octobre, il n'y a plus de négociation possible avec le Hamas, quoi. La seule solution, c'est essayer de le détruire, de l'étouffer, ou au moins de parce que c'est quand même assez difficile comme objectif, mais au moins de le ramener à la condition d'organisation clandestine qu'il avait avant, de l'écraser et de le rendre beaucoup moins dangereux, au moins, qu'il n'était devenu. Et pour ça, il faut réoccuper Gaza, quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut reprendre Gaza et puis détruire, casser tout ce qu'on peut trouver du Hamas à l'intérieur, récupérer les otages et puis flinguer aussi tous les dirigeants qui sont à l'intérieur, Sinwar, Mohamed Def, etc. Et donc on se lance dans ce truc, mais sans avoir forcément de perspective sur la suite politique, une fois qu'on a fait ça.
Oui, mais surtout là, on se donne un objectif politique qui impliquera donc d'avoir une compréhension politique qu'ils n'avaient pas manifestement avant. C'est-à-dire, c'était manifestement l'angle mort et là. On attend un résultat absolument formel sur un truc qu'on ne comprenait pas bien il y a encore 4 mois, quoi.
On attend toujours de savoir quel est le plan pour la suite, quoi. Une fois que tout le territoire sera reconquis, et je reviens à ce que disait au départ, pour l'instant, c'est un peu, les choses sont à l'arrêt.
Pensez qu'ils vont y arriver?
Moi, j'étais persuadé qu'il le ferait. Enfin, je veux dire, la disproportion des forces est telle que, normalement, il devrait occuper Gaza, quoi. Je veux dire, militairement, c'est très violent.
C'est assez difficile à pondérer, ce truc-là, parce que, enfin, on a tous les éléments.
Ouais.
Il y a les bombardements, il y a les chars, il y a la puissance israélienne, mais de l'autre côté, il y a les tunnels, etc., etc. Et... Enfin, là, ce que vous me dites, mais oui, d'accord, les tunnels, c'est emmerdant, mais bon, là, devant une telle masse israélienne, en fait, les tunnels, ça devrait pas être un problème éternel, quoi. Ça se gère quand même. C'est pas... C'est pas l'échec et mat ultime d'une opération militaire. En fait, au bout d'un moment, on finit par y arriver si on met suffisamment de moyens, quoi.
Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Donc, le plan, normalement, c'est ça. C'est occuper tout Gaza, détruire toutes les infrastructures du Hamas. On récupère tous les tunnels, on les fouille, on casse tout. Tous les dépôts de munitions, tout ça. On flingue le maximum de gens du Hamas, ou on les élimine. On flingue tous ces cadres, etc. Et puis, bon, il y a forcément une présence résiduelle du Hamas et d'autres organisations qu'il ne faut jamais oublier, hein, qui sont là. Et donc, on passe, normalement, ensuite, on passe dans une deuxième phase, qui est une phase d'occupation, où on continue à contrôler, à nettoyer un peu la longue traîne des opérations, la phase d'intervention, puis après, il y a la longue traîne de l'occupation, qui peut s'avérer, qui est normalement moins violente chaque jour, mais qui, au bout du compte, peut s'avérer extrêmement compliquée, se transformer complètement en bourbier. Ça, c'est vrai.
Mais une question, je vous pose, du coup, c'est pourquoi le Hamas combat ? Parce que là, de la manière dont on le lit, bon, de toute façon, ils vont finir par y arriver. Et donc, à chaque fois qu'un combattant Hamas sort la tête, il va finir par se faire flinguer d'une manière ou d'une autre. Donc, la manière dont on pourrait imaginer que c'est logique, c'est type guerre d'Algérie à une époque, type Viet Minh. Bon, on dilue complètement dans la population, on se tient tranquille. Et puis, il y a un moment où ils ne vont pas réussir à nous distinguer des autres. Et ils vont finir par se barrer, et à ce moment-là, on reprendra l'appareil.
La question, c'est pourquoi est-ce que le Hamas combat encore ?
Ouais, pourquoi est-ce que le Hamas continue à... Puisque manifestement, ils ne vont pas réussir à décourager complètement les Israéliens d'y aller. Quelle est la logique stratégique derrière ça, quoi ?
On peut se poser la question d'abord, s'ils ne peuvent pas faire un Liban 2006, quoi, hein, faire comme le Hezbollah, puis finalement, on les met en échec, et puis les Israéliens sont repartis.
Bon, Liban 2006, il y avait un pays, enfin, il y avait un arrière derrière, il y avait une capacité à revenir, enfin, à ponctionner le pays. Enfin, bon, là, il y a la mer, il y a quelques tunnels vers l'Égypte, mais on ne peut pas trop reculer. On peut pas trop se diluer vers l'arrière.
Et puis l'enjeu ne sont pas les mêmes. Hein. En 2006, le déclencheur de la guerre, c'était un raid du Hezbollah qui avait détruit une section de l'armée israélienne, quoi, qui avait capturé des prisonniers. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans la même ampleur que le choc du 7 octobre. Donc là, il faut aller plus loin en réalité, du côté israélien. Mais du côté palestinien, on tient, on résiste. Tant qu'on résiste, on gagne des points de réputation. C'est un peu ça, quoi. Pour l'instant, si on fait le bilan côté Hamas, ils ont réussi à obtenir la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Leur popularité a considérablement augmenté, notamment en Cisjordanie, pas forcément à Gaza, mais en Cisjordanie. Et ce sont les... Parce qu'il y a plusieurs Hamas, quoi. Il y a le Hamas Gaza, puis il y a le Hamas international, quoi. Le Hamas Gaza, qui a sans doute un peu forcé la main, qui a pris un peu les rênes, et qui a forcé la main de tout le monde, ils ont réussi à placer l'organisation vraiment en tête, ont pris le leadership de la cause palestinienne, d'une certaine façon, face à leur autre adversaire, qui est l'autorité palestinienne, et en particulier le Fatah. Pour l'instant, ils ont subi énormément de pertes, mais...
Il est gagné, c'est gagné, c'est dans la banque, dans une certaine manière, pour le Hamas. Oui. C'est-à-dire, là...
Vous pourrez passer directement quelque chose de souterrain et puis...
à chaque fois, il continue. Alors, mais je sais pas, moi, le truc qui me vient en tête, c'est Mossoul. C'est la reprise de Mossoul et ces mecs de l'État islamique qui n'ont aucun espoir de rien, puisque tout est encerclé et la disproportion des forces est totale, et qui, quand même, ils vont, comme pour une bataille rangée, qu'ils avaient une chance de gagner. On ne va pas faire de la psychanalyse ni une analyse de la fanatisation ou pas du Hamas, parce qu'on n'en sait rien et ce serait très hasardeux, mais il y a quand même quelque chose de... Stratégiquement, ça paraîtrait malin de repasser, de se refaire discret. Or, manifestement, ils ont une volonté de tenir Gaza.
Parce que pour l'instant, ça marche encore, ils résistent, ça tient. Apparemment, ils freinent. Ils freinent l'armée israélienne. Donc voilà, il y a aussi en termes de réputation, il y a cette idée de tenir tête. Voilà, tant qu'on tient tête à la puissante armée israélienne, tant qu'on tient tête au puissant Israël, on gagne. Alors le temps n'est peut-être pas encore venu de passer à la clandestinité et de mener un combat plus souterrain.
Quand est-ce qu'on décide qu'on tient plus tête ? Non mais c'est-à-dire là, il recule quoi.
Il recule pas beaucoup en fait. C'est ça qui me surprend. Hein. Vous prenez la carte d'opération, c'est la même qu'il y a quasiment un mois quoi. Les Israéliens progresse très peu, quoi. Et ça me cesse de m'étonner, d'ailleurs.
Et dans les formes précises, c'est-à-dire de combat d'infanterie, qui est quand même votre spécialité à la base, enfin, votre premier métier. Parce que ça, enfin, on l'a dit un peu au début, on a vu des pertes de chars assez étonnantes au tout début, parce qu'on ne sait pas si c'est qu'il n'y avait pas l'infanterie débarquée à côté. Enfin, bon, en tout cas, manifestement, il y a un certain nombre de chars qui se sont fait perdre au tout début. Est-ce que ça a été réglé du côté israélien? Est-ce que, mine de rien, il y a toujours ces faiblesses? C'est juste que c'est le propos d'une disproportion des forces. Le rouleau compresseur fait qu'on finit par y arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution, un affinement de la manière dont les Israéliens mènent ce combat?
Je ne sais pas trop, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que les Palestiniens sont organisés en défense territoriale, défense de surface. Donc, ils ont 7 brigades sur l'ensemble du territoire de Gaza. À l'intérieur de chaque brigade, vous avez un bataillon de quelques centaines de combattants qui a un quartier particulier à défendre. À l'intérieur, ce quartier qu'ils connaissent parfaitement, il y a un certain nombre d'emplacements, de tirs, des tunnels dans lesquels ils vont mener du harcèlement, si possible en essayant de contourner l'adversaire, de l'attaquer là où il est faible. Si on peut taper des véhicules, c'est toujours... C'est quand vous regardez les pertes, par exemple, l'évolution des pertes, vous avez des pics de pertes d'un seul coup. Alors, c'est soit qu'un véhicule qui a été touché avec des groupes de combat à l'intérieur, mais pour aller le toucher, il faut avoir un armement qui permette de percer, donc percer ces véhicules. Alors ils disposent de lance-roquettes charge tandem, c'est-à-dire qu'il y a deux charges creuses l'une derrière l'autre, donc une première qui va faire exploser un peu les défenses actives autour du char, puis la deuxième qui va percer pour le coup. Donc ils ont un certain nombre de ces équipements qui leur permettent de taper des véhicules, donc ça c'était une source de perte relativement importante pour Israël, surtout au début effectivement. Et puis l'autre source de perte, c'est les destructions de bâtiments. C'est-à-dire que vous avez une section israélienne qui pénètre dans un bâtiment, vous faites exploser le bâtiment, il est piégé, enfin vous avez des tonnes d'explosifs. Donc ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Sinon, pour le reste du temps, on fait du harcèlement, quoi. On utilise beaucoup des tireurs d'élite, des snipers, et puis petit, c'est un soldat à chaque fois qu'on essaie d'abattre, et petit à petit. Et voilà. Et puis, mais ce qui se passe, c'est que les Israéliens, à force de pénétrer, alors sur les grands axes, ils utilisent tous leurs véhicules blindés. Et puis évidemment, dès qu'on rentre un peu à l'intérieur, dans les zones un peu plus denses de Gazaville, c'est plus compliqué. Il faut combattre plus à pied, c'est plus lent, les combats sont plus méthodiques. Mais au bout d'un moment, ils arrivent à infliger suffisamment de pertes au bataillon ou à la brigade sur zone pour qu'elle n'arrive plus forcément à coordonner ses actions, à faire des trucs cohérents. Vous avez, il y a effectivement 13 000 morts, je suis très sceptique, mais bon, c'est l'évaluation israélienne. Vous avez des brigades maintenant qui sont complètement exsangues. Vous avez beaucoup de chefs qui ont été de bataillons, de commandants de brigades qui ont été tués. Donc le combat est un peu plus dispersé, un peu plus moins cohérent qu'auparavant. Et puis vous avez une densité de force qui est un peu plus, qui est plus faible qu'auparavant. Paradoxalement, ça devrait faciliter l'avancée israélienne. Du coup, ça devrait aller plus vite maintenant. Mais c'est pas le cas. Je sais pas. Vous avez une force. Pas oublier là aussi, c'est que l'armée israélienne, malgré qu'il y a une masse plus importante que celle de l'armée française,
avec les réservistes.
Avec les réservistes, bien sûr. Mais même l'armée de terre israélienne d'active, c'est 160 000 hommes, en grande partie dans les unités de combat. Mais vous avez des gens qui sont engagés dans... vous avez à peu près 35 brigades d'active de réserve disponibles. Elles ont presque maintenant toutes été engagées dans Gaza, quoi. Et donc, taper des mois de combat dans Gaza, c'est...
Ils ont les moyens de faire de la rotation ?
Ils font de la rotation. Il y a déjà plusieurs unités qui sont sorties. Il y a plusieurs brigades, notamment la brigade école de l'infanterie, qui a déjà sa deuxième rotation dans Gaza. Mais c'est nécessaire. Mais vous avez la brigade Givati, je crois, c'est une brigade d'infanterie d'active, qui a déjà 34 soldats tués au combat. Donc vous multipliez par 3, 4 à 5 pour avoir le nombre de blessés, ça commence à faire lourd, quoi. C'est lourd, c'est usant. Donc il y a peut-être des problèmes logistiques aussi. Il faut alimenter ce combat pendant des mois et des mois. Donc c'est peut-être, il y a une forme d'usure qui se met en place.
Mais c'est, comment dire, là où c'est intéressant, c'est qu'il leur faut une victoire aux Israéliens. Et ils se sont trouvés des indicateurs qui sont impossibles. à vérifier, c'est-à-dire la disparition du Hamas. Bah non, il y aura toujours des dirigeants du Hamas à l'étranger, on pourra toujours trouver un tunnel du Hamas, il y aura toujours un dépôt de roquettes qu'on aurait oublié. Enfin, le Hamas et les frères musulmans, c'est une idéologie politique, on n'élimine pas une idéologie politique, en tout cas certainement pas comme ça. Donc, c'est... Et il va leur falloir un repère qu'ils atteignent pour pouvoir dire « on a réussi ».
Oui.
Donc peut-être c'est l'élimination de certains chefs. Enfin, bon, c'est compliqué d'éliminer les chefs du Hamas. Enfin, c'est la question que tout le monde pose. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que désastre humanitaire, évidemment, bombardement, etc., etc. Mais il va falloir un objectif qu'ils remplissent. Et ce qui est intriguant, disons, mais morbidement intriguant, vu de l'extérieur, c'est qu'on ne voit pas bien lequel un objectif blanc-noir, oui-non, auquel il pourrait répondre oui à un moment.
Oui, bien sûr, c'est le problème des critères de victoire dans ce genre de combat. Face à un adversaire qui ne se soumettra pas, hein, qui ne va pas dire « Ok, je me soumets ». Quand on fait le bilan un peu de la lutte contre les grandes organisations armées menées en Irak, en Afghanistan ou même par Israël depuis le début des années 2000, depuis le Hezbollah jusqu'au réseau Haqqani en Afghanistan ou l'armée du Mahdi ou en Irak, enfin bon, combien de ces organisations ont été réellement détruites ? Bah, zéro. Vous cherchez, zéro. C'est extrêmement compliqué. En revanche, les seuls résultats auxquels on a pu assister, c'est à des étouffements, notamment 2007-2008 en Irak. Effectivement, les Américains et les Irakiens ont réussi à étouffer l'État islamique en Irak. Et ses alliés. C'est-à-dire, concrètement, ils ne représentaient plus une menace majeure. Ils étaient toujours là, résiduellement, dans le nord du pays. Mais là, c'était plus un problème majeur. Et là...
Bah, 2017-2018.
Non, 2007-2008. Et après, l'État islamique était toujours là. Hein, et il est réapparu, évidemment, un peu plus tard, lorsque ces circonstances lui ont été plus favorables. Donc ça a permis d'ailleurs aux Américains de dire ça y est, maintenant on a réussi à rétablir la sécurité, donc on peut se retirer d'Irak. Mais pour cela, d'ailleurs, il a fallu engager énormément de moyens, notamment s'allier avec d'anciens ennemis. Enfin, bon, ça a été très compliqué. Tout ce qu'on peut opérationnellement espéré, c'est ça en fait, c'est arriver à étouffer le Hamas à Gaza et en faire en sorte qu'il ne représente plus qu'une menace résiduelle. Alors si on peut, après il faut présenter des bilans, alors si on dit on a flingué la quasi-totalité, la majorité des combattants, si on a quelques têtes à offrir évidemment, en disant ce sont eux les organisateurs du 7 octobre, on les a punis, on les a châtiés. S'il n'y a plus de tirs de roquettes sur le sol israélien, on pourra dire on a rétabli à peu près la sécurité.
Bon. Ouais, ouais,
mais le Hamas sera toujours là, oui, bien sûr. Ça,
oui,
et si ce n'est pas le Hamas, ce sera une autre organisation qui...
Qui ne réussissent pas à buter Nasrallah depuis plus de 20 ans.
Oui.
Les organisations ennemies d'Israël ont un vrai savoir-faire pour préserver... ces têtes de pont qui pourraient offrir des victoires à Israël.
Mais même si les buts, ils seront remplacés. Quoi. Je pense que les Israéliens ont assassiné, ont flingué le prédécesseur de Nasrallah. Quoi. Et puis il a été remplacé par Nasrallah. Et puis ils se disent, c'est peut-être pas forcément, on n'a peut-être pas gagné au change. Quoi. Vous refaites la liste de tous les cadres du Hamas qui ont été flingués depuis l'origine. Donc là, il y a un aspect symbolique, faire justice, on va tuer ceux qui ont organisé l'attaque du 7 octobre, très bien, mais il y en aura d'autres derrière qui apparaîtront. Hein. C'est inéluctable. Hein. La recherche de l'élimination par la décapitation des chefs, ça ne marche pas. C'est comme ça. Quoi. La seule possibilité, c'est d'écraser une organisation. C'est de faire en sorte qu'elle ait une telle pression que tous les gens sont obligés de se planquer, qu'ils ont du mal à communiquer entre eux, qu'ils arrivent du mal à récupérer de l'armement, à s'organiser, à faire du retour d'expérience, etc. C'est comme le stress. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vous attaquer des ennemis un peu. Si vous attaquez un peu mollement, vous allez stimuler. Ils vont apprendre, ils vont se développer un peu comme la masse. En fait, ils sont développés au fur et à mesure, ils ont appris.
Au fur et à mesure des années 2000-2010.
C'est un peu le problème qu'on avait nous aussi, hein, par exemple au Sahel. Hein, est-ce qu'on a attaqué suffisamment durement, exercé suffisamment de pression pression sur l'ennemi pour l'empêcher de se développer. Très clairement non. Il faut arriver à cette masse critique où la pression finalement devient négative pour lui et que au lieu de se développer, il diminue jusqu'à éventuellement presque, en tout cas, être résiduel. Quoi. C'est comme ça qu'on fait statistiquement la manière dont toutes les organisations ont pu être éliminées, c'est par l'étouffement dans l'immense majorité des cas. Quoi. Parfois le ralliement, mais c'est quand même souvent le...
T'as plus de probabilité d'être l'étouffement que le ralliement.
C'est l'étouffement, oui, le ralliement, ou alors on négocie. C'était le cas avec l'OLP, qui était une organisation terroriste, qui a organisé plein d'attentats contre Israël, qui, jusqu'en début des années 80, jusqu'en 87, avait tué 650 Israéliens. Bien, quoi, dans les attentats, quoi, mais bon, pour tout compte, on a négocié. Quoi.
Mais ce qu'il y a, le dernier élément, on ne va pas s'éterniser sur la dimension politique, mais c'est que le gouvernement Netanyahou a un intérêt structurant à ce que ça continue. Tout le monde a un intérêt à ce que ça continue. Enfin, le Hamas a un intérêt à ce que ça continue. Et du coup, ça... on voit mal cette guerre dont, opérationnellement, on voit mal comment elle peut se clore. Et qui politiquement, manifestement, aura de toute façon du mal à se clore. On attend.
Oui, alors bien sûr, tant que la tempête, on ne change pas de capitaine. C'est là-dessus que compte certainement Netanyahou pour sauver sa tête. Moi je suis déjà surpris qu'il soit encore là, en réalité, vu son faible degré de popularité. Son espoir est peut-être d'ailleurs de résister jusqu'à l'élection de Trump, qui sera un allié incontestable. Mais bon, ça me paraît quand même assez lointain. Je ne comprends pas que les Israéliens ne soient pas simplement débarrassés de ce gouvernement et qu'ils aient mis en place ce gouvernement d'union nationale, le truc un peu plus cohérent. Quoi. Sinon, non seulement, c'est-à-dire qu'on est toujours avec eux, globalement, ceux qui sont aux commandes, sont un peu ceux qui ont contribué quand même au problème. Et donc, c'est à eux qu'on demande de résoudre le problème qu'ils ont... contribue à créer, quoi. Ce qui évidemment pose quelques questions. Il y a les cas où l'intérêt personnel doit peut-être passer quand même derrière l'intérêt de la nation, quoi. Mais dans le cas de Netanyahou, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Comment ose-t-il d'ailleurs continuer pourquoi n'a-t-il pas démissionné, quoi. En réalité, devant le désastre, mais même à très long terme. Le développement du Hamas, premier gouvernement Netanyahou, c'est 97. Depuis, je crois qu'il n'y a que 3 ans où il n'a pas été Premier ministre, en réalité, au total. Donc, tout ça, le développement du Hamas, il s'est fait quand même en parallèle de Netanyahou au pouvoir, quoi. Qu'on soupçonne d'ailleurs de se satisfaire, en réalité, même avant, même un peu Sharon, le Hamas, il y a suffisamment de déclarations d'ailleurs dans ce sens, de sa part y compris, pour comprendre que le Hamas, finalement, ça l'arrangeait bien, en tout cas sa politique, la division du mouvement palestinien, même depuis l'origine, si on remonte la création du Hamas à Gaza, ces émanations frères musulmans qu'on a laissé un petit peu faire, qui sont petit à petit implantées dans la population, le cheikh Yassine, qu'on a laissé faire, qu'on a emprisonné deux fois d'ailleurs, qui a été libéré 2 fois. Alors que Marwan Barghouti, par exemple, de l'autorité palestinienne, qui pourrait être un leader, un vrai leader pour l'autorité palestinienne, lui est toujours en prison, quoi, par exemple. Donc, Israël n'a pas créé le Hamas, comme certains. Théorie complotiste, un peu, pourrait le laisser entendre. Mais. Il se satisfaisait de cet épouvantail qui sapait complètement toute la cause palestinienne et qui avec qui il n'était pas question de négocier, tant qu'il était là, le Hamas ne pouvait pas avoir de soutien véritablement international, des gens qui comptaient. Taper dessus, pouvait considérer comme une menace suffisante pour la politique de sécurité, donc permettre à Netanyahou de se montrer, je suis l'homme qui assure la sécurité, parce que je protège le pays du Hamas, sur lequel on tape régulièrement. Donc, mais maintenant, cette politique, profiter du Hamas, c'est une politique qui n'est plus quand même plus tenable. Quoi. Mais le problème, c'est que par la manière dont les Israéliens ont procédé, et notamment par une campagne aérienne d'un mois qui a été d'une violence assez incroyable, ils ont sécrété aussi alors, pas mal de vengeurs. Quoi, hein, dans je pense que le taux de, alors certes, le taux de popularité du Hamas à Gaza n'est pas forcément très important, mais je pense que le taux de popularité d'Israël il ne doit pas être très, très haut non plus. Quoi. Au début des années 2000, on avait fait un sondage où on demandait aux enfants palestiniens qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, et la moitié disait je veux être kamikaze et tuer des juifs. Et ces gamins ils sont adultes maintenant au passage, et là je pense qu'on a sécrété quand même un certain nombre de vocations anti-israéliennes, de gens qui rejoindront le Hamas ou pas, ou qui rejoindront d'autres organisations ou qui feront quelque chose, mais au bout du compte à long terme, ou à moyen terme en tout cas, la menace contre Israël n'a pas forcément diminué. Quoi. Elle a changé simplement.
Merci beaucoup Michel Goyen.
Merci à vous.
Je rappelle la référence donc de cet ouvrage qui sort dans quelques jours. L'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas, paru chez Perrin et Robert Laffont. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon ou encore sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Tout ça est lu et grandement apprécié. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.